Le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. La baisse du chômage s'accélère en France. Une bonne nouvelle, meilleure encore pour le département de la Manche. En situation de quasi plein emploi, envers du décor, il a bien du mal à recruter. La maltraitance animale, nouvelle vidéo d'L214, en cause l'abattoir Bigard de Cuiseaux en Saône-et-Loire. Pendant 4 mois, un militant de l'association a été contrôleur pour le compte des services vétérinaires. Constat accablant. Les États-Unis délivrent le premier passeport avec le genre X à une personne qui ne se reconnaît pas dans les choix traditionnels de genre. C'était une promesse de campagne de Joe Biden. Et puis Simply Mozart, de nouveaux enregistrements dirigés par le violoniste Julien Chauvin.
Et à 7h50, dans 20 minutes, l'invité d'Alexandra Ben Saïd, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Il est précisément question d'emploi dans le journal. Le nombre des demandeurs d'emploi est repassé en un an sous la barre symbolique des 3 millions. Il est un département qui connaît un incroyable dynamisme, c'est la Manche.
Le chômage ne cesse de baisser et à ce niveau, les spécialistes considèrent que l'on se rapproche du plein emploi. Et les entreprises ont alors les plus grandes difficultés à recruter. C'est dans ce contexte qu'un job dating était organisé hier après-midi à la Cité de la Mer de Cherbourg. Une vingtaine d'entreprises, 500 offres d'emploi dans leur besace. On peut dire, Pierre Coquelin, que ce sont les demandeurs d'emploi qui ont les cartes en main.
Son dossier dans les mains, Sofiane, 20 ans, attend son tour.
Je suis vraiment ouvert à tout.
Ce cherbourgeois a un CDD de 2 mois au rayon frais d'une grande surface. Son salaire, environ 950 euros par mois.
C'est assez ric-rac. Voilà.
Ce que vous recherchez, en fait, c'est de la stabilité.
Ouais, stabilité, un métier qui me donne envie de me lever les matins. Un métier intéressant.
Un peu plus loin, Florie, 37 ans, est venue de Blauville, près de Sainte-Mère-Église. Cette mère de famille recherche un poste dans la logistique et elle sait ce qu'elle veut.
Pour le moment, le chômage me permet de vivre convenablement. Donc je fais attention à ce que je recherche. Maintenant à 37 ans, oui, je pose mes conditions, clairement.
Vu le contexte, certains candidats n'hésitent pas à mettre en concurrence les employeurs. Éric Vatel est responsable emploi chez Orano.
La rémunération fait partie évidemment des sujets de négociation, mais on a également les conditions de travail, les avantages qui sont rattachés au poste, les horaires de travail et tout type de contraintes qui peuvent leur être plus ou moins agréables de subir.
Parmi les critiques souvent émises par les candidats, beaucoup trop d'offres à durée ou revenus très limités. David Lefebvre est directeur Pôle emploi Cherbourg Centre.
Courte mission, l'intérim, ça peut être un point de départ aussi pour des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Enfin, ça peut être une vraie opportunité. Après, il y a des secteurs d'activité où avant de pérenniser, il faut pouvoir aussi faire ses preuves.
Pôle emploi qui assure que 70% de ses offres en ligne sont des CDI ou des CDD de plus de 6 mois.
Pierre Coquelin de France Bleu Cotentin. Il est venu le temps des représailles. La France lance un ultimatum au Royaume-Uni, car pour certains pêcheurs français, cela fait des semaines maintenant que leurs bateaux reviennent à moitié vides. Ils ont interdiction d'exercer dans les aux Britanniques faute de licence. Alors si dans 5 jours, Londres ne donne pas davantage d'autorisation de pêche aux Français, plus aucun produit de la mer britannique ne pourra débarquer sur notre sol. Des contrôles douaniers et sanitaires seront aussi effectués systématiquement sur tous les produits anglais, même zèles pour le contrôle de camions et celui des navires.
Âme sensible, s'abstenir. L'association de défense des animaux L214 diffuse aujourd'hui une nouvelle vidéo.
Un salarié de l'association s'est infiltré de février à mai dernier dans les services vétérinaires d'un abattoir à Cuiseaux, en Saône-et-Loire. Un abattoir qui appartient au groupe Bigard, le leader de la viande bovine connu en Europe, connu pour ses steaks hachés Bigard, Charal et Socopa. Les conclusions du militant d'L214 sont accablantes. Documents et vidéos à l'appui. Il a constaté les graves carences de ce service vétérinaire qui dépend du ministre de l'Agriculture, donc de l'État, mais aussi les défaillances de cet abattoir dans lequel 500 bovins sont abattus chaque jour, et sans parler du recrutement de ce militant tout à fait inexpérimenté, accablant, Manuel Ruffez.
Dans cette vidéo, il témoigne à visage découvert.
Je m'appelle Thomas Saïdi, j'ai 28 ans et je suis enquêteur pour l'association L214.
Avec un CV de 3 lignes, sans compétences, il est embauché au service vétérinaire après avoir répondu à cette offre d'emploi détaillée par Sébastien Arsac, porte-parole de L214.
Déjà, débutant accepté, il n'y a aucune formation, aucun diplôme requis pour répondre à cet emploi. La seule chose qu'on demande, c'est éventuellement d'avoir une connaissance du monde agricole et du monde agroalimentaire.
Sur place, il ne recevra pas plus de formation alors qu'il va devoir contrôler l'hygiène et l'abattage. Très vite, il relève des anomalies qu'il filme.
Cette vache-là qui est suspendue devant nous, elle est gestante, elle porte un veau. Et normalement, ces vaches qui arrivent à l'abattoir n'auraient pas dû être transportées jusqu'à l'abattoir parce que la réglementation dit bien que les vaches au-delà de 8 mois de gestation ne sont pas transportables.
Mais ici, on prélève le sang de ces veaux à naître pour en séparer le sérum et le vendre à des laboratoires. Là encore, tout est filmé. Et puis sur l'abattage rituel, après égorgement, les bêtes, manifestement, reprennent conscience.
On voit clairement sur les images des bovins qui relèvent la tête. On voit aussi des bovins qui continuent de respirer. Et on voit aussi des clignements d'yeux qui sont aussi typiques de prise de conscience.
L214 porte plainte contre l'abattoir pour sévices graves et dépose un recours en responsabilité contre l'État.
Manuel Ruffez, et justement ces militants qui défendent les animaux ou l'environnement, ces militants issus des mouvements sociaux et citoyens, comment les intégrer dans les partis politiques? Comment utiliser leurs compétences? Certains ont participé à Extinction Rébellion, aux Marches pour le Climat ou à Nuit Debout. Les partis tentent de les attraper dans leur filet, alors que souvent, ils ne veulent pas ou ils ne savent pas tout simplement rejoindre les partis traditionnels. C'est la question à laquelle va tenter de répondre l'Académie des futurs leaders, une forme lancée en partenariat avec l'Université de Columbia à New York et qui lance sur son site internet une campagne de recrutement. Antoine Gignot.
Des militants associatifs, des entrepreneurs sociaux, des activistes, des soignants, des artistes, pas de limite dans le recrutement. C'est un jury qui validera les inscriptions. Alice Barbe, la fondatrice de l'Académie des futurs leaders, entend former 15 personnes par an.
On cherche des personnes qui se bougent, qui font bouger les lignes, qui se battent sur la justice sociale, environnementale, contre les inégalités. Notre objectif d'ici à 2027, c'est de renouveler la classe politique par des gens qui nous ressemblent, pour que les citoyens dits issus de la ruralité, issus de la diversité des territoires et qui se battent, arrivent au Parlement, arrivent au gouvernement, arrivent à l'Élysée.
Au programme, des cours théoriques sur l'éthique, les institutions, des face-à-face avec des prix Nobel comme Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne présidente du Liberia, ou les conseillers de Barack Obama. Un cursus inédit, explique Camille Etienne, militante écologiste et étudiante à Sciences Po.
C'est peut-être ce qui peut parfois manquer à des écoles plus traditionnelles. Par exemple, en économie, on a souvent une vision du récit économique de croissance et pas nécessairement d'autres chemins possibles. Et c'est ce que j'espère qu'on trouvera ici.
Le financement, assuré par des donateurs privés et des fondations comme Bigger Than Us, doit aussi permettre de donner des bourses aux étudiants. Début des cours en janvier prochain.
Antoine Gignot, on la présente comme la pilule miracle contre le Covid, l'antiviral Molnupiravir, capable, selon son fabricant, de diminuer de moitié les hospitalisations. Alors si l'Agence européenne du médicament a annoncé en début de semaine une procédure d'examen accélérée de ce traitement, le fabricant américain Merck annonce d'ores et déjà vouloir accorder des licences à des fabricants de génériques, ce qui ouvrirait la voie à la production du Molnupiravir dans les pays en voie de développement. À Genève, Jérémy Lanche.
C'est la première fois qu'un groupe pharmaceutique accorde une licence volontaire dans le cadre du Covid au Medicines Patent Pool de Genève. Concrètement, l'organisme pourra accorder des sous-licences à des fabricants de génériques partout dans le monde. Le Molnupiravir, qui devrait se négocier autour des $700 aux États-Unis, pourrait alors être vendu pour une vingtaine de dollars seulement sous sa forme générique dans 105 pays. L'OMS salue un pas positif dans la lutte contre la pandémie et espère que d'autres laboratoires vont emboîter le pas de Merck. Médecins sans frontières est plus réservé et rappelle que l'accord exclut de gros producteurs de génériques comme le Brésil et la Russie, alors que ces pays connaissent de forts taux de contamination. L'ONG regrette également que le brevet du Molnupiravir n'ait pas été levé, ce qui aurait permis qu'il soit diffusé dans tous les pays qui en ont besoin. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
La France a commandé de quoi soigner 50 000 patients avec ce traitement, mais il ne sera pas recommandé à tout le monde car il pourrait provoquer des mutations génétiques des cellules, interdit donc aux femmes enceintes. En tout cas, ces risques doivent être confirmés.
Ni masculin, ni féminin, les États-Unis délivrent leur premier passeport avec un genre X.
Mieux prendre en compte les droits des minorités sexuelles. C'était une promesse de campagne de Joe Biden. Une grande première aux États-Unis, dont les associations se félicitent. Les autorités ont délivré un passeport qui affiche le genre X. L'option sera généralisée en début d'année prochaine. Le document a été reçu par une personne qui ne se reconnaît pas dans les choix masculins et féminins. À New York, Loïc Loury.
Pas de M ni de F, mais un X sous la mention sexe. Le premier passeport du genre aux États-Unis a été délivré à Dana Zim, originaire de Fort Collins, dans le Colorado. Les autorités n'ont pas dévoilé son identité, mais l'agence de presse AP a pu s'entretenir avec Yale. Je ne suis pas un problème, je suis un être humain, dit Zim, qui a servi dans la marine militaire et dont le bras de fer légal avec le gouvernement. Pour l'obtention de ce genre X, datait de 2015. Avec cette décision voulue par Joe Biden, les États-Unis rejoignent une dizaine de pays, dont le Canada, l'Allemagne et l'Inde ou le Pakistan, une mesure historique saluée par plusieurs associations aux États-Unis. Le département d'État américain dit avoir ajouté cette case X pour les personnes non-binaires, intersexes, et plus largement, dit son porte-parole, pour celles qui ne se reconnaissent pas dans les critères de genre proposés jusqu'à présent. New York, Loïc Loury, France Inter.
La grève à la SNCF sur le TGV Atlantique est levée pour le week-end de Toussaint. Les syndicats ont obtenu des négociations sur leurs conditions de travail. De la musique pour terminer avec Simply Mozart. C'est le nom d'une nouvelle série d'enregistrements du concert de la Loge, la formation dirigée par le violoniste Julien Chauvin. Et parce qu'il y a toujours à creuser dans l'œuvre de ce génie, le premier des trois CD vient de sortir. Il est consacré à la dernière symphonie de Mozart, la 41e, surnommée la Symphonie Jupiter. Stéphane Capro.
Mozart compose cette symphonie lors de l'été 1788. Il a 32 ans. Elle est considérée comme son ultime symphonie. Il décédera 3 ans plus tard. Le nom de Jupiter lui est donné pour la première fois en 1819 lors d'un concert en Écosse. Cette symphonie est certainement la plus lumineuse de Mozart, un compositeur qui continue de fasciner le violoniste Julien Chauvin.
Il a ce génie propre, il a ce génie de la mélodie dont tout le monde va se souvenir. Il a ce... lui-même écrivait dans les lettres qu'il envoyait à son père. Ah bah oui, mais j'étais très heureux parce que le public, à la fin du concert, sifflait mon thème. Et il a eu ce génie de trouver un thème que le public, lambda, musicien ou pas, va se souvenir et que ça va le toucher. Puis après, il a tout son art, toute sa science avec les accords, avec l'harmonie, avec les textures et cette science de mettre des instruments ensemble pour avoir des sonorités nouvelles à chaque fois.
Dans les albums de cette collection Simply Mozart, il y aura à chaque fois 3 œuvres. Pour ce premier opus, Julien Chauvin et le Concert de la Loge ont enregistré avec la Symphonie Jupiter le concerto numéro 3 et l'ouverture des Noces de Figaro.
Simply Mozart, la Symphonie Jupiter de Mozart du Concert de la Loge sur le label Alpha Classique.
Laurence Thomas pour le journal. À suivre Thomas Legrand.